Le sujet de ce jour est l'unité chrétienne.
Le deuil des larmes, l'orgueil des âmes seront bannis à tout jamais. Amis, viens vite, Dieu qui t'invite, t'offre une place en son palais.
Quelques heures avant l'arrestation et la mort de Jésus-Christ, il a fait une prière qui est conservée pour nous dans la Bible, dans l'Évangile de Jean, chapitre 17. Sachant qu'il était presque à la fin de son ministère et qu'il remonterait bientôt vers Dieu le Père, Jésus pensait aux disciples qui resteraient pour accomplir la tâche qu'il leur confiait. Mais Jésus a aussi pensé à nous qui croyons aujourd'hui, au moment le plus sobre de sa vie sur terre. Qu'est-ce que Jésus a demandé pour vous et moi qui croyons? En Jean 17, versets 20 et 21, Jésus dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, c'est-à-dire pas pour mes 12 apôtres seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Si nous croyons en Jésus aujourd'hui, c'est bien par la parole des apôtres. Presque tout ce que nous connaissons de Jésus, nous le connaissons grâce à ce que les apôtres ont enseigné et écrit à son sujet dans la Bible. Jésus a donc prié pour nous. Et qu'est-ce qu'il voulait pour nous? Il dit, « Je prie pour eux afin que tous soient un. » Jésus voulait que nous soyons un, qu'il y ait de l'unité parmi nous, ses disciples. Et Jésus voulait que nous soyons unis à quel degré? Il voulait que nous soyons un comme lui et son Père céleste sont un. Alors là, il ne s'agit pas d'une unité superficielle qui cache la discorde, la rivalité, les mésententes sur la doctrine, etc. Le Père et le Fils sont parfaitement unis. Ils ont la même volonté. Ils proclament exactement les mêmes vérités. Ils travaillent ensemble, en parfaite harmonie. Pourquoi Jésus voulait-il tant que ses disciples soient un? Il le dit dans sa prière au Père, « Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jésus savait que la division parmi ceux qui croiraient en lui serait un obstacle à la foi des autres. Le monde accepterait difficilement son message si les messagers n'étaient pas d'accord les uns avec les autres, ou si les messagers d'un Dieu d'amour ne manifestaient pas l'amour les uns pour les autres. Il est triste de remarquer que beaucoup de croyants ne s'occupent pas du tout du souhait de leur maître, de son désir de voir une vraie unité parmi ceux qui ont cru en lui. Non seulement nous voyons beaucoup de groupes religieux qui, se réclamant tous de Christ, se contredisent les uns les autres sur 1000 points de doctrine, mais le nombre de dénominations dites chrétiennes s'augmente du jour au jour. La confusion qui se présente au monde s'accroît continuellement. Considérez les différences frappantes entre les pratiques et les enseignements des catholiques et des baptistes, les chrétiens célestes et les adventistes, les assemblées de Dieu et les témoins de Jéhovah, l'église apostolique et l'église mormone. Je ne cite pas ces noms pour accuser une église quelconque, mais pour souligner non seulement l'existence de plusieurs centaines de dénominations de nos jours, mais aussi les discordes, les désaccords entre elles sur ce qu'il faut enseigner et faire dans la religion. Tout cela n'est pas du tout ce que Jésus a voulu. Et pourtant, des hommes continuent de se lever pour créer de nouvelles églises, et les hommes continuent de s'y confier. D'où vient cette division et comment pourrait-on l'éviter? La Bible accuse deux groupes différents pour beaucoup de divisions qui existent. Ces deux groupes sont des enseignants ou chefs religieux et ceux qui reçoivent l'enseignement. Voyons premièrement le côté des enseignants. En écrivant au jeune prédicateur Timothée, l'apôtre Paul le met en garde ainsi. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. 1 Timothée 4, versets 1 à 3. Un facteur dans l'abandon de la vraie foi chrétienne serait l'activité de faux docteurs, des âmes hypocrites qui savent que ce qu'ils enseignent ne vient pas de Dieu. L'apôtre Pierre parle du même problème dans sa deuxième lettre. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Selon Pierre, les faux docteurs introduisent des sectes pernicieuses, c'est-à-dire nuisibles ou dangereuses. Ils créent des divisions et font que les gens parlent mal du christianisme. En plus, Pierre identifie l'un des mobiles des faux docteurs, la cupidité, qui veut dire l'amour de l'argent. Soyons francs et honnêtes, comme Pierre l'a été. Beaucoup d'hommes se servent de la religion pour s'enrichir. Comme Paul l'a dit en 1 Timothée 6, verset 5, ces gens croient que la piété est une source de gain, du gain financier. Beaucoup de divisions et d'erreurs dans le monde religieux est donc clairement la faute de ceux qui enseignent. Ils enseignent non pas ce qui est vrai, mais ce qui peut leur procurer l'argent et la faveur des hommes. Mais nous avons dit que la responsabilité pour la division et la confusion religieuse revient aussi aux auditeurs. Paul a souligné cette idée dans sa deuxième lettre à Timothée. Il dit à Timothée de prêcher la parole en toute occasion, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Ici, nous voyons que si les faux docteurs sont très nombreux et qu'ils trouvent facilement des adeptes, le problème est que les hommes ne cherchent souvent pas la vérité. Ils ne veulent pas l'entendre, car la vérité est parfois désagréable. Trop d'auditeurs choisissent écouter ceux qui ne leur disent que ce qu'ils veulent entendre, que ce soit vrai ou pas. Une telle attitude augmente bien sûr la division, mais en plus, elle fait perdre éternellement les auditeurs eux-mêmes. Paul a parlé aux chrétiens de la ville de Thessalonique de ceux qui seraient séduits par des mensonges, des miracles mensongers. Il a parlé de quelqu'un qui agira, et je cite, « par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12. Si nous n'avons pas l'amour de la vérité, c'est le mensonge que nous écouterons. Et Dieu permettra même que les faux docteurs qui prêchent le mensonge au nom du Christ fassent des miracles pour mieux séduire les hommes.